bon, pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Colis Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Et nous allons aborder avec Florian Borg la question de la loi sur la justice qui va bientôt être votée, hein, la réforme sur la justice.
Oui, bonjour, oui, c'est le dernier round de lecture est demain au Sénat.
Voilà, demain carrément et après, voilà, ça va se faire assez rapidement. Et c'est pourquoi on avait envie de revenir sur le contenu de ce projet de loi. Avec nous dans les studios, donc je le rappelle, Florian Borg, que tu fais partie du syndicat des avocats de France.
Oui.
Bonjour. Et puis Alex, on a demandé à Alex de venir. Alex, tu animes une émission de radio qui a lieu tous les vendredis de 19h à 20h30 qui s'appelle L'Envolée. C'est une émission anticarcérale en destination des prisonniers et de tous ceux qui s'intéressent aux questions de prison, justice, police.
Salut à tous.
Voilà. Que, comme ça, tu pourras, si tu le souhaites, intervenir et poser des questions. Pourquoi ça nous intéresse particulièrement de revenir sur cette loi? Parce que lors de ce mouvement des Gilets jaunes, on a beaucoup parlé des violences policières. Encore samedi dernier, un jeune homme a perdu la main, sa main. Il l'a pas perdu tout seul. C'est une arme de la police qui l'a sectionné. Et donc du coup, voilà, il apparaît de plus en plus clairement pour l'ensemble des gens le rôle de la police et les armes qui leur sont données pour maintenir l'ordre, des armes militaires. Et on parle trop peu de la question des tribunaux, puisque depuis le début du mouvement, plus de 500 personnes, mais quand je dis 500, c'est vraiment, à mon avis, c'est beaucoup, beaucoup plus, sont passés plus de 1000 devant les tribunaux et au moins 500 ont été incarcérés. Donc, et on est assez démunis, en tous les cas pour le moment, sur la question de la critique à la fois des textes, de loi, mais également de comment est rendue la justice et comment elle s'applique dans les prisons aujourd'hui. Voilà, en donnant quelques chiffres rapides, c'est-à-dire que les peines ont doublé en 40 ans. Et qu'il y a aujourd'hui 71 000 prisonniers dans les prisons françaises, c'est un record. Et contrairement à d'autres pays qui pensent à désincarcérer, la France incarcère de plus en plus. Donc c'était intéressant de revenir sur ce projet de loi, puisque une fois de plus, il va se donner les moyens de plus d'incarcération en moyens. Puisque bon, on va essayer de voir. Bon, on va pas pouvoir parler de tout, hein, c'est ce qu'on se disait, parce que on a essayé de chercher à droite à gauche quand même un maximum d'informations sur le contenu de ce projet. Et c'est pas facile d'avoir ces infos. Et puis, comme il y a des lois qui sont votées à peu près tous les ans ou tous les deux ans, la dernière sur l'antiterrorisme, c'est il y a à peine un an et demi. Enfin bref, moi je sais même pas comment vous faites pour vous y retrouver. En tous les cas, normalement, nul n'est censé ignorer la loi. Eh ben, chapeau, hein, pour s'y retrouver.
Peut-être pour redonner un peu le cadre et pourquoi il y a une connexion avec la question des Gilets jaunes, c'est un projet de loi qui a été mis en débat d'abord sous la forme de rapports par des spécialistes, en sachant que dans les spécialistes vous aviez notamment l'Institut Montaigne qui lui-même est payé, il reçoit de l'argent de SFR, et que la conclusion de ce rapport de l'Institut Montaigne était justement de mettre en place des plateformes numériques d'accès à la justice auquel sans doute SFR participera dans les appels d'offres pour y avoir accès. Donc on est en rendu des rapports en janvier 2018. Procédure accélérée à l'Assemblée et au Sénat, et un projet de loi qui, donc c'est de réforme de la justice, hein, de programmation pour la justice pour 2022, je crois. Mais c'est pas seulement en matière pénale que ça joue, c'est aussi en matière d'accès à la justice du quotidien, c'est-à-dire suppression des tribunaux d'instance. Mmh. Donc les tribunaux d'instance, c'est pour les petits litiges, et c'est des alternatives aux saisies des tribunaux, notamment par des plateformes numériques et par des médiations numériques. Donc tout va se régler entre personnes sur une plateforme informatique, en renvoyant bien sûr aux personnes qui ont le plus de difficultés ou qui ne souhaitent pas, parce qu'on n'est pas obligé de vouloir être sur Internet et d'avoir accès à Internet pour régler les problèmes. Toutes ces personnes-là vont être envoyées à l'outil informatique, et je vous renvoie à Daniel Blake, qui est extrêmement une vraie illustration d'une difficulté d'accès pour les personnes qui ont le plus de difficultés sociale, et les Anglais ont déjà passé le cap.
C'est le film de Ken Loach. Hein.
C'est le film de Ken Loach, c'est ça. Mmh. De Daniel Blake, où on le voit avoir du mal à ouvrir ses droits au chômage parce qu'il n'arrive pas à se saisir d'outils informatiques.
Non, mais déjà, on a du mal tout court, ouais, parce que le langage juridique, c'est quand même pas simple.
Hein. Et c'est la première connexion avec les Gilets jaunes, c'est que dans le mouvement des Gilets jaunes, parmi les revendications, il y a la question de l'accès aux services publics. Et là, clairement, on montre bien que, d'abord, si on n'est pas dans une grande ville, les tribunaux d'instance vont fermer. On aura des chambres déléguées, mais une chambre déléguée, ça peut se fermer du jour au lendemain par décret, et c'est plus la loi qui l'y autorise. Et puis, on voit sur Internet. Et donc, c'est vraiment le premier élément qui connecte avec le mouvement des Gilets jaunes, qui eux-mêmes expriment un éloignement du service public des citoyens. Après, on n'est pas obligé de prendre toutes les revendications des Gilets jaunes parce qu'elles sont diverses. Certaines, on n'est évidemment pas d'accord et c'est très confus. Mais en tout cas, il y a un axe de fond là que nous rejoignons.
Et il devrait y avoir un autre accès, mais je me permets de le dire en tant que Gilet jaune. C'est le fait de diminuer le quantum des peines, puisqu'on a vu qu'il avait augmenté considérablement depuis une trentaine d'années, puisqu'on est passé de 15 ans maximum dans les années 70 à aujourd'hui plus de 30 ans. Donc c'est complètement hallucinant d'imaginer qu'on puisse enfermer à vie quelqu'un quasiment. Et du coup, peut-être que cette histoire de limiter ou de plafonner, comme les loyers, de plafonner les peines à 15 ans maximum, bon, je dis 15 ans, mais ça pourrait être moins, mais ce serait intéressant en tous les cas à discuter, à réfléchir collectivement, quoi. Voilà, ça c'était ma petite part.
Oui, il y a les matières pénales après, bien évidemment. C'est très paradoxal parce que d'un côté, on va nous parler d'alternatives aux peines. En réalité, on crée de nouvelles peines. Ce qui était des alternatives avant deviennent des peines, hein, notamment le bracelet électronique, les travaux d'intérêt généraux. On n'a plus le choix. Ce sont des peines en tant que telles, ou les stages dans le cadre de la peine aussi, ça devient des peines à part entière. Et en même temps, on va augmenter le nombre de places de prison. En sachant qu'on nous parle chaque fois d'augmentation du budget de la justice, mais ce n'est pas pour avoir plus de greffières et greffiers ou juges et juges pour les litiges du quotidien, ou par exemple pour la justice prud'homale, hein, la justice du travail, qui est toujours engorgée. On va augmenter le nombre de places de prison, et le budget de la justice va d'abord dans l'augmentation du nombre de places de prison. Et donc il y a une corrélation avec le budget qui vient d'être voté et le projet de loi justice, et l'argent va donc aller pour financer SFR et compagnie sur les plateformes et les places de prison.
Sans compter que bon, il y avait cette fameuse phrase qui dit vaut mieux construire des places de, bah, par exemple, d'hôpitaux ou peut-être même d'écoles ou de facultés, tiens, plutôt que des nouvelles places de prison. Très certainement aussi, ce serait beaucoup plus efficace pour réduire la délinquance. Alors, c'est 15 000 nouvelles places de prison qui sont prévues au programme de construction d'ici 2022. Alors, on s'est demandé un peu, c'est quoi ces places? C'est pour qui? C'est pourquoi? Donc, grosso modo, ça va être beaucoup sur des places de semi-liberté, des nouvelles maisons d'arrêt et puis aussi des prisons de haute sécurité, puisque pour l'instant, il y en a deux. à ma connaissance. Et donc, comme il y a une volonté de, comment dire, d'être plus sévère pour les longues peines, il va falloir maintenir cette population pendant des années et des années et des années en détention. Et pour ça, il va falloir le faire de la manière forte, c'est-à-dire en construisant des prisons de haute sécurité.
Ça, les hautes sécurités, ça vise la question des... notamment parce que c'est une vraie peur du côté du gouvernement, ça vise les retours de situations de guerre, donc de Syrie et d'Irak notamment, où les personnes radicalisées, sauf qu'on n'a pas de chiffres. Donc on vote des places de prison sans avoir les chiffres des retours, et on s'est rendu compte que 60% des chiffres qu'ils nous donnaient, c'était des enfants sur les retours.
C'est horrible.
Donc en fait, on inclut les enfants et dedans... alors que donc pour justifier les places de prison, on inclut les enfants qui, de toute manière, n'iront pas en prison, d'autant plus qu'ils seront séparés, qui plus est, de leur mère ou de leur père.
Et puis on va justifier ces nouvelles places de prison, d'isolement, avec des régimes extrêmement durs, sous prétexte, comme tu le disais, de retour de Syrie. Mais on sait dans la réalité que ça concerne l'ensemble des prisonniers, et notamment ceux qui se révoltent, qui n'acceptent pas leur peine ou qui n'acceptent pas leurs conditions de détention à l'intérieur. Donc ça dépasse largement le public théoriquement visé. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, c'était pareil. Je veux dire, on fabrique des peines extrêmement lourdes pour les ennemis intérieurs. Alors, c'est les toxicos, après les trafiquants de drogue, après les violeurs, après ça. Et après, ça s'étend à l'ensemble de la population.
Ah bah, clairement, la question du terrorisme, elle a servi de... Elle a servi d'inspiration à la loi anti-manif qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on utilise d'abord le risque sur lequel on n'a pas le droit de dire que on veut avoir un débat, parce que dès qu'on veut avoir un débat sur le terrorisme, on est traité de, au pire d'apologie, au mieux d'excuser les actes, alors que c'est pas du tout la question. Mais en partant de là, on en arrive après à effectivement utiliser ces dispositifs sur le terrorisme pour les appliquer à tout le monde. Et c'est bien la crainte qu'on a. J'ai quand même un élément à vous donner sur ces histoires de terrorisme, c'est qu'on dit on va mettre tous les radicalisés ensemble, et quand ils vont sortir de prison, ils auront des assignations à résidence, parce qu'on va considérer qu'ils sont une menace. Et pourquoi ils sont une menace? Parce qu'ils ont continué à se radicaliser en prison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact avec des gens radicalisés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des lieux où on les a mis ensemble. Donc on est complètement en train de tourner en rond là-dedans pour justifier des mesures empêchant la réinsertion pour ces centaines de personnes qui devraient, selon toute vraisemblance, vu la tournure que prennent les événements, être incarcérées au retour de Syrie ou d'Irak.
Et tous les autres.
Je voulais juste dire un autre truc là-dessus, c'est que moi je suis d'accord qu'il y a du coup là, toutes ces peines de prison, enfin toutes ces nouvelles structures en prison, elles vont servir à punir d'autres gens en majorité, et qu'en fait c'est des dispositifs qu'on voit déjà dans les centres de rétention. Par exemple à Lille, il y a une zone spéciale hyper sécuritaire qui est genre pour les terroristes, alors qu'en fait il n'y a aucune donnée, on sait pas du tout qui y passe, et on sait que même dans les autres centres de rétention, dès qu'il y a quelqu'un qui est fiché S, en fait la personne elle passe moins de 24 heures, que les policiers sont hyper violents, et que en fait les trois quarts des gens fichés S qui passent dans les autres centres de rétention, ils sortent d'hôpitaux où ils sont c'est des mots qu'on leur a attribués, et qu'il y a aucun acte derrière, quoi. Mais juste pour dire que en fait ce fichage S dans les centres de rétention, c'est aussi une menace, que dans les prisons c'est pareil, parce qu'en fait on commence déjà à menacer les gens de leur dire vous êtes radicalisés, vous êtes ceci, vous allez finir dans ces structures, et que potentiellement pour une partie des prisonniers et prisonnières qui ont des titres de séjour pas renouvelables et qui risquent de sauter pour cette raison-là, de menacer à l'ordre public, ou qui sont sans papier, en fait il y a un risque de se retrouver dans des centres de rétention, mais pas dans n'importe quel centre de rétention, dans les centres de rétention ultra sécuritaires à nouveau, ou pour être envoyé dans les pays où on va être à nouveau enfermé parce que l'État français vous a désigné comme potentiellement terroriste, quoi. Et que du coup c'est un cheminement hyper long et hyper large du truc. Et je pense que quand tout à l'heure tu parlais des 500 condamnations, 500 personnes en prison, c'est aussi en fait plein de personnes qui ont été placées en centre de rétention parce que étrangers et étrangères. Il y avait eu le cas d'une américaine, Amélie Lamelot, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont été arrêtés, qui sont juste sans papier à côté des gilets jaunes. Et il y a aussi beaucoup de gens, je pense, qui ont été placés sous contrainte dans des établissements psy, etc. En tout cas, l'État, il a utilisé tout son arsenal de répression. Et c'est là où on voit que la prison, elle s'est élargie au reste de la société, et que les choses, elles se complètent très très bien, quoi.
Oui, puis demain, la prison, ce sera pour s'être couvert avec une écharpe le visage, partiellement, donc et en étant à proximité d'une baston qui éclate, et sans y participer, le fait d'être à proximité de se couvrir le visage, hier, c'était une contravention, donc une amende, et demain, ce sera une peine de prison. Donc on augmente en plus le nombre de raisons d'envoyer un en garde à vue et deux en comparution immédiate et trois en prison.
Alors, pour revenir aussi sur cette loi, tu parlais pas mal de la suppression des tribunaux qui on en a beaucoup entendu parler parce qu'il y a eu quand même de la part des avocats et des professionnels de la justice des mouvements depuis un an et demi, manifestations, blocage de tribunaux, etc. Bon, malheureusement, comme tu nous le disais en antenne tout à l'heure, ça n'a pas servi à grand chose, mais bon, voilà. Mais ça a été l'une des critiques faites principalement à cette loi. Moi, j'en vois une autre, c'est celle de la suppression des tribunaux d'assises pour les peines de moins de 20 ans. 20 ans, c'est quand même un bout de vie, c'est pas rien. Et donc, ça veut dire que demain, si ce projet de loi passe, il y a la suppression des jurés populaires et qu'il y a une espèce, on va dire, une correctionnalisation des affaires, des délits criminels.
Alors, c'est à la fois c'est technique et en même temps il faut l'expliquer. Ce qu'on appelle la correctionnalisation, c'est lorsque on a une qualification de crime probable, on va décider d'envoyer devant, non pas aux assises, en estimant que c'est trop lourd, trop long, parce que les assises, c'est vrai que c'est un vrai débat sur les faits et sur le droit fait avec un jury populaire, donc avec des gens qui sont qui viennent de la société civile, mais ça peut être n'importe qui et tout le monde, et tant mieux, parce que c'est un gage de diversité. Et donc, il y a certains faits qui sont renvoyés dans un tribunal correctionnel, donc c'est plus des crimes, mais en correctionnel, et c'est notamment tous les faits de viol qui deviennent des faits d'agression sexuelle, et donc on sort du jury populaire pour aller vers un jury professionnel.
Pour aller plus vite, pour que ça coûte moins cher.
Parce qu'effectivement, au lieu d'avoir 3 ou 4 jours d'audience, on va passer à 2 heures d'audience sur le dossier. Le dossier aura été travaillé avant par le juge professionnel.
Les professionnels, oui.
On va avoir 2 heures pour défendre une personne, et on ne va pas revenir sur l'ensemble du dossier parce que c'est...
trop long.
On va nous dire, attendez, il y a d'autres dossiers derrière. Et donc on limite en fait, c'est un peu... Comme on n'a plus les moyens de payer des juges, mais par contre on a les moyens d'ouvrir des places de prison, on essaye d'aller de plus en plus vite avec une justice bâclée. Et donc le projet de loi prévoit de valider ce qui se fait déjà, mais de manière
plus large.
Alors pour le moment c'est une expérimentation et on va créer des tribunaux criminels départementaux composés seulement de juges professionnels.
5 juges professionnels à la place donc des jurys populaires. Est-ce que c'est pas une manière aussi de se garantir la peine? Parce que on a vu, bon, c'est sûr, cette question-là, bon, je tiens quand même à y rester un tout petit peu, parce qu'on n'en parle pas. C'est quelque chose qui est issu de la Révolution française, 1789, pour intégrer la population au rendu de justice. Et parfois, c'est pas toujours, mais parfois, avec un bon avocat, des témoins, etc., il arrive que, la personne accusée se retrouve libre ou avec une peine bien inférieure à ce qu'avait réclamé l'avocat général. Et est-ce que c'est pas pour l'État de se garantir une peine effective de mettre 5 magistrats professionnels à la place des 3 existants et des 6 ou 7 jurés populaires?
En tout cas, on va faire relever la peine de l'habitude. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de mettre des peines. On a une échelle des peines qui est à peu près fixée, donc la discussion ne sert plus à rien, puisque de toute manière, pour tel délit, tel juge a l'habitude de donner telle peine, et qu'effectivement, le débat est plus compliqué, notamment faire rentrer des éléments de personnalité pour dire, bon d'accord, il l'a fait, vous allez le reconnaître coupable, mais pensez qu'il y a des circonstances, etc., etc. Quand on a un jury populaire, ça permet de faire appel au vécu de chacun, en se disant, si j'étais dans la même situation, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais tué? Est-ce que j'aurais pas tué? Est-ce que c'est excusable? Est-ce que c'est pas excusable? Et après, ça va dépendre de la diversité des opinions de chacun, mais en tout cas, ça renvoie à sa propre vie. le magistrat, ça renvoie pas à sa vie, puisque c'est de sa profession. Alors, ça renvoie à sa vie professionnelle et surtout à une habitude de mettre des peines. Donc, c'est beaucoup plus froid et il y a beaucoup moins de transferts possibles. Et c'est important sur des crimes de pouvoir aussi se mettre dans la situation à la fois, y compris des victimes, hein, parce que c'est pas que la question de, c'est
sûr,
y compris des victimes qui ont beaucoup moins la parole dans un tribunal correctionnel. Et d'ailleurs, le projet de loi prévoit aussi de réduire la parole des victimes, puisque alors c'est pas pour les tribunaux criminels départementaux, mais pour le tribunal correctionnel aujourd'hui en place, on prévoit de pouvoir tenir, pour aller plus vite, l'audience sans la victime qui viendra dans une autre audience ultérieure, et on prévoit de généraliser ce phénomène. Donc y compris le débat aujourd'hui, le débat se fera sans les victimes, et les victimes parfois elles-mêmes sont un moyen de discuter de la peine, puisqu'elles-mêmes vont dire bon bah il a fait ça, mais en même temps voilà, moi je veux pas l'accabler parce que j'ai compris que donc ou l'inverse d'ailleurs, mais c'est important d'avoir tout le monde dans un débat parce qu'on parle là de la vie des gens et on ne parle pas seulement d'une mécanique de peine et de délit.
Il y a aussi dans les tribunaux d'assises la possibilité, vu que les jurés n'ont pas eu accès au dossier, il y a tout l'ensemble du débat qui est remis sur la table. Ça permet de revisiter l'enquête, comment elle a été menée, de revoir un peu tous les éléments d'une affaire. Et là, du coup, ce sera absolument pas nécessaire puisque les cinq magistrats professionnels auront lu le dossier, s'en seront imprégnés et n'auront pas besoin de le revisiter.
Non, et d'ailleurs, quand c'est un dossier comme ça écrit en très peu de temps, il y a des points qui mériteraient d'avoir un débat. On n'a pas le temps, on est pressé. On peut prendre le temps comme avocat, mais souvent, vous avez la pression de part et d'autre qui fait que vous n'êtes pas dans la même... Dans le même état d'esprit, et personne n'est dans le même état d'esprit, du coup, c'est y compris, et c'est important, la personne qui est mise en cause, le prévenu, il va voir son dossier deux heures, un peu comme une formalité administrative, il sera peut-être pas dans un état physique ou mental préparé, puisque ça va très vite, et donc on n'a pas du tout les mêmes dispositions.
C'est un peu inquiétant. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir une espèce de, comme tu le disais, une espèce de machine à punir.
C'est rapidité, efficacité. Donc ça devient de la gestion des flux, comme une entreprise. Donc on n'est plus dans la justice des femmes et des hommes, on est dans la justice des dossiers, du nombre de dossiers, des statistiques, du nombre de peines qui vont être délivrées. On nous dit que la population veut qu'on soit plus sévère, donc on va être plus sévère, et les chiffres vont monter, et on change complètement de... Alors, ça date pas d'aujourd'hui, mais on change de perspective de ce qu'est la justice. Et là, cette loi, elle est clairement dans cette volonté de... à la fois de passer du public au privé pour certains dossiers, hein, toutes les règlements amiables qui passeront par des médiations privées, mais aussi de faire des juges des personnes sur lesquelles on va faire peser une logique d'abattage et pas une logique de justice.
Ce qui est effrayant aussi, c'est de considérer que 20 ans, c'est rien, alors que 20 ans, c'est une vie. Et que plus ça va, plus on a l'impression qu'il faut donner des peines de plus en plus longues pour faire œuvre de justice, alors que quelque part, ça devrait être l'inverse.
Mais surtout, 20 ans, ça ne se discute pas en deux heures. C'est ça qui est assez incroyable. J'allais dire même, on a des peines, des personnes qui prennent des peines de 2 ou 3 ans de prison en comparution immédiate,
carrément,
à la suite de faits de manifestation. C'est totalement disproportionné. Alors là, je passe sur la comparution immédiate parce que là, on n'a pas de disposition dessus, mais c'est vraiment une justice où on n'a pas le temps de se préparer. Et surtout, le juge lui-même est confronté à la pression de l'actualité.
On va passer peut-être un petit peu de musique.
Y como dice Rubén, un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marca, pero todos saben que es policía. Cuidado con las armas de Brixton. Where belong, breaking, how you gonna go?
on va pas pouvoir aborder tous les aspects de cette loi, hein, parce que
il y en a beaucoup en une heure, c'est
impossible.
Il faudrait spécialiser sur plein de domaines en même temps et c'est très compliqué.
Ouais, très très compliqué. Moi, je vous dis tout de suite, j'étais chercher un peu à droite à gauche, c'est encore plus compliqué d'avoir les informations. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Florian de venir.
240 pages de texte de loi.
Voilà, 240 pages. Et puis avec aussi des rappels, enfin bref.
C'est assez
compliqué le discours en plus juridique. On voulait revenir sur la question rapidement, hein, parce que sur la justice des mineurs. Parce que, alors comme vous le savez, en France, on peut incarcérer dès l'âge de 13 ans, ce qui est quand même vraiment, mais complètement hallucinant d'imaginer une chose pareille. Et systématiquement une remise en question de l'ordonnance de 45 qui faisait prévaloir la prévention à la répression sur la question des mineurs.
L'ordonnance de 45, c'est même au-delà de la prévention, c'est d'abord de l'éducation avant d'être de la répression.
Voilà.
Donc c'est même pas de la prévention, on considère qu'un mineur, lorsqu'il dérape, c'est d'abord une mesure d'éducation qui doit être prise avant d'être une mesure de répression.
Et on remet ça à chaque fois en question.
C'est en discussion depuis un certain nombre d'années, parce qu'on considère toujours que les mineurs sont de plus en plus violents. Hein, c'est toujours ce qui se dit en nous sortant 2-3 faits divers à chaque fois, et en faisant des généralités. Et là, alors même que ce n'était pas en discussion sur un projet de loi, donc je rappelle qu'il est discuté en urgence, hein, et alors que ce n'était pas en discussion dès le départ, par amendement, la ministre de la Justice demande au Parlement de l'autoriser à légiférer par ordonnance. Légiférer par ordonnance, ça veut dire que la discussion, elle n'est pas ouverte. Hein, on va donner 2-3 grandes lignes en disant oui, il faut réformer dans tel ou tel sens. Ce sera validé après par le Parlement, mais dans une loi sans discussion et sans amendement. Et donc là, on va avoir un projet ficelé directement par le pouvoir exécutif et par quelques directions du ministère sans obligation de consultation réelle.
Ah, on a eu beau fouiner, chercher, hein, on n'a rien trouvé hein, sur le contenu de ces ordonnances.
On n'a pas de contenu aujourd'hui.
Ben ouais, c'est ça.
On n'a pas de contenu.
C'est complètement dingue. Juste quand même pour dire que cette justice des mineurs, elle condamne, parce qu'on parle beaucoup, soi-disant, de juges pour enfants laxistes, la réalité est tout autre, puisque, entre autres, les tribunaux ont prononcé des peines dans 93% des cas, donc en 2017, alors que c'était à 60% en 94 pour dire que vraiment la justice est extrêmement dure notamment pour les enfants quoi. Donc ben on pourra pas aller tellement plus loin malheureusement sur cette question là parce que c'est quand même assez important.
On a eu une première manifestation le 2 février, donc on commence à mobiliser, mais c'est vrai que on est toujours un peu seul sur la justice à mobiliser parce que c'est des sujets qui sont très complexes. On a toujours l'impression que la justice ne fait pas assez, donc on va pas soutenir les professionnels qui remettent en cause ces projets non acceptables.
Et peut-être aussi, ça manque d'infos, hein, parce que tu as vu comme on a eu du mal à les avoir, les infos, et puis de les rendre accessibles aussi à tout un chacun. Ça aussi, c'est une démarche importante si on a envie d'être suivi, de mobiliser et de se battre contre tout ça, quoi. On va parler d'un domaine que tu connais particulièrement bien, qui est celui de la justice du numérique, de l'introduction du numérique dans la justice. Pour l'instant, ça va s'appliquer essentiellement aux litiges de moins de 10 000 euros, hein, c'est ça ?
Oui, alors en fait, c'est pour. Il y a plusieurs choses qui sont en discussion. Il y a le règlement et la saisine. Alors, d'abord, la saisine des tribunaux directement par des plateformes numériques. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En sachant que nous-mêmes, professionnels avocats, on passe déjà par des plateformes numériques et que c'est pas toujours très simple. C'est pas toujours très simple puisque.
C'est-à-dire, par exemple, vous passez par des plateformes, c'est-à-dire pour tout ce qui est jurisprudence.
Non, pour saisir la justice.
Pour saisir la justice, d'accord.
On peut saisir. Il y a toujours l'huissier qui vient avertir la partie adverse, mais en tout cas, nous, on saisit la justice, non plus en déposant au tribunal nos écritures, mais en saisissant par Internet.
D'accord.
C'est à la fois très pratique, parce que ça va plus vite, c'est certain, mais c'est aussi contraignant sur le fait que, y compris, on a un certain nombre de documents qui sont très lourds à compiler, à lire, et la lecture et l'échange des pièces sur informatique, c'est compliqué, mais après tout, c'est notre métier, donc on s'y colle, et au fur et à mesure, on s'y colle.
On s'y fait.
On s'y fait. Le problème, c'est qu'une personne pouvait hier se présenter au greffe du tribunal d'instance et faire une requête directement et sur papier libre et ça a engagé la justice. Demain, ça va être directement sur des plateformes puisqu'on ça va avec la fermeture des tribunaux d'instance. Donc on va saisir la justice et on va nous proposer une médiation qui fasse passer tout sur Internet avec éventuellement, et c'est là où on a des craintes, une proposition de résolution qui sera sortie d'une analyse des décisions de justice par des algorithmes, par un traitement algorithmique, donc des traitements privés dont on ne connaîtra pas la source. Et c'est là où on a une grosse difficulté.
Ça veut dire, par exemple, je prends un exemple peut-être qui pourrait concerner tout le monde, un divorce, la garde des enfants.
L'exemple le plus frappant, ça va être un accident avec des dommages corporels, donc ou des dommages aux biens. Donc j'ai été inondé ou je suis tombé dans la rue, ça m'a cassé mes lunettes, plus j'ai perdu deux dents et j'ai une fracture. Et c'est là où on va rentrer dans ce type de justice.
D'accord, Bruce.
Ben en fait, moi, cette question de régler les problèmes judiciaires via une plateforme, ça m'inquiète un peu. J'aimerais juste savoir si ça a déjà été testé à l'étranger, histoire qu'on puisse avoir une idée ou si on a des retours de cette expérience.
Alors, ça a été testé, y compris en matière pénale aux États-Unis. Mais vous avez déjà des premières décisions de cours supérieurs qui disent « mais on a une difficulté, c'est que vous nous faites des propositions ». Et nous ne connaissons pas quelle est la manière dont vous avez calculé la proposition. Et donc il y a déjà des brèches là-dessus aux États-Unis. Donc nous, on va aussi s'en saisir parce que la difficulté, c'est demain. Donc je reprends mon exemple. Vous vous cassez une jambe, vous allez sur une plateforme de médiation et là, financé par un des assureurs, vous avez une proposition qui vous est faite. On va vous dire les dommages et intérêts demandés. Ben, en moyenne, les tribunaux accordent 3 000 euros, donc ce sera 3 000 euros qu'on vous propose. Sauf que si on n'a pas accès à ce qu'on appelle les données qui ont permis le traitement, on ne sait pas si les 3 000 euros, c'est juste ou pas juste par rapport à ce qui peut se faire à tel ou tel endroit. À partir du moment où vous n'avez pas accès à ce traitement, il n'y a pas de contradiction possible. On va vous l'imposer, surtout si l'outil informatique est fait par quelqu'un qui serait lui-même en conflit d'intérêts. Et c'est là toute la vraie difficulté. Pouvoir avoir accès plus rapidement aux décisions de justice, c'est une bonne chose. Le traitement, après, il faut qu'on soit tous d'accord sur la manière dont on traite les décisions de justice. Et c'est un vrai problème de contradictoire et de moyens et d'accès aux contradictoires, parce que tout le monde n'est pas en mesure de se payer un algorithme pour analyser la jurisprudence.
Tout à fait. Et par rapport justement à toutes ces histoires de numérique, on a vu apparaître des algorithmes, et notamment des logiciels, analystes par exemple Notebook, où on rentre à l'intérieur l'ensemble des données d'un dossier et puis ça sort les présumés coupables. En regroupant l'ensemble des données.
C'est des dossiers aux États-Unis où vous donnez toutes les données, les éléments de la personnalité de la personne et vous allez avoir une proposition ou des orientations sur le jugement à prendre et sur comment écrire le jugement. C'est y compris utilisé dans certains lieux par la police pour savoir à quel endroit les rondes de police vont être faites. Et donc, on va cibler des quartiers en fonction d'un certain nombre de données sociales et on va cibler les quartiers pour aller vérifier, pour contrôler. Donc, on rajoute ça à la vidéosurveillance et vous avez là tous des éléments qui nous renvoient de plus en plus vers ce qu'on dit de la justice prédictive. Ce sont en fait l'utilisation de données et de probabilités qui font qu'on va cibler telle ou telle personne en priorité et donc la surveiller en priorité.
Donc la rendre coupable en priorité.
Ah bah plus facilement, en tout cas.
Donc c'est une machine qui s'alimente elle-même.
C'est une machine qui s'alimente elle-même. Tout à fait.
D'accord. Bon, on a vu quand même là en France des expérimentations par rapport à donc cette façon de rendre la justice, notamment dans l'affaire Grégory, puisque bon moi ça m'a frappé puisque voilà en 84 c'est une affaire qui avait défrayé la chronique, on était tous concernés par la mort du petit Grégory et donc du coup a été mis dans ce logiciel l'ensemble des données et puis trois noms ont été crachés par l'ordinateur, trois personnes se sont retrouvées en prison. Soi-disant, il y avait eu des nouveaux éléments, alors que pas du tout. Le nouvel élément, c'était juste l'ordinateur qui avait mangé toutes les données. Et puis finalement, les trois personnes ont été remises en liberté. C'est quand même presque l'aveu d'un échec.
Quand on utilise des technologies pour faciliter le travail, pourquoi pas ? La question, c'est que faciliter le travail, ça ne veut pas dire être flemmard sur la vérification de ce que l'on fait. C'est toujours pareil. L'outil, on l'utilise, mais ça doit reposer sur un vrai travail humain derrière. Et donc là, on va vous sortir trois noms parce que c'est des investigations qui n'avaient pas été faites à l'époque. Et donc, on va combler le fait de ne pas avoir fait les investigations par un nouvel outil. Mais il aurait peut-être fallu faire les investigations à l'époque pour fermer toutes les portes à ce niveau-là, justement. Et donc, on a comme ça un certain nombre de dossiers où les investigations n'avaient pas été faites. Mais la question, c'est pas parce qu'on avait un outil qu'on les aurait pu se faire ou pas. Qu'est-ce qu'on rentre dans l'outil pour les faire ? Comment est-ce qu'on oriente l'utilisation de l'outil ? L'outil informatique, il est orienté par celui qui l'a écrit et il est orienté par celui qui l'utilise. Mm-mm. Donc, si on a déjà un biais au point de départ, on aura un même biais à la sortie. Ça, c'est vraiment important et c'est ce qui relève les analyses déjà aux États-Unis, c'est que le biais de sortie était contenu dans le biais de départ. Donc si vous ne rentrez pas toutes les données, vous n'aurez pas toutes les données à la sortie.
Et puis, en face, il y a quand même des êtres humains et que l'ordinateur 01 permet pas de nuancer toute la complexité humaine. Donc il y a vraiment une nécessité, comme on le disait tout à l'heure pour les cours d'assises, de prendre le temps, de comprendre, et puis d'essayer de cerner aussi les causes, les raisons, les personnalités, et toutes ces choses-là ne peuvent pas être traitées par un ordinateur.
Bah, surtout qu'on ment sur les mots, on parle d'intelligence artificielle, c'est pas de l'intelligence, c'est de la reproduction de
l'existant.
C'est de l'apprentissage de traitement de données, de plus en plus complexe, mais ça n'en fait pas une intelligence avec des sentiments, avec la manière dont on apprécie ou pas selon son éducation, selon son parcours de vie, un dossier ou un autre. Donc non, ça n'a rien à voir avec l'intelligence.
Et puis c'est de la reproduction de ce qui
c'est de la reproduction. C'est ce que je disais. Ah. C'est si vous prenez un seul quartier avec un événement d'insécurité pour x ou y raison, je ne sais pas, parce que par exemple on a fermé une école et que du coup 10 ans après on se retrouve avec plus de délits. Et si vous prenez ce quartier et que vous le dupliquez en disant bah voilà, on a un outil qui est prêt parce que on l'a travaillé sur n'importe quel autre quartier, vous aurez les mêmes, vous allez appliquer des solutions qui n'ont rien à voir avec les données de départ sur un quartier qui n'aura pas la même le même vécu. Donc oui c'est totalement ça va vraiment dépendre de ce qu'on y met, et comme on n'a pas le contrôle aujourd'hui dans ce qu'on y met, on ne peut que le refuser.
Qu'est-ce que on n'aurait pas vu ? Et il y a le développement des peines alternatives. Bon, nous, on n'appelle pas ça comme ça. On appelle ça des peines hors les murs. Et c'est pas pour nous des peines alternatives, mais des peines supplémentaires. On en a déjà parlé.
Ah bah, le projet de loi en fait effectivement des peines à part entière et plus des peines alternatives.
Mais déjà, même à peine alternative, on n'était pas tout à fait d'accord sur le truc. Hein.
Ouais, moi, je prends la alternative dans le sens où ça reste des peines. Hein. C'est pas parce qu'elles sont alternatives,
bah,
mais alternatives
ouais.
à l'emprisonnement.
C'est
qu'à la place de l'emprisonnement, on vous proposait un travail d'intérêt général, par exemple, ou une mesure de surveillance électronique. Là, on va le passer directement comme il n'y aura même plus le choix. Et après tout, quand on est condamné, on peut très bien préférer l'emprisonnement. Alors, je ne vais pas développer parce que ce n'est pas forcément ma position, mais...
Parce que le fait d'avoir un point de vue plus historique, on se rend compte aussi qu'avant, où on mettait par exemple des peines de sursis ou pas de peine du tout, aujourd'hui, on met des peines de bracelet électronique ou de travail d'intérêt général. Donc on se rend compte, c'est dans ce sens-là que je disais que ce n'était pas des peines alternatives, mais des peines supplémentaires. Ça permet aux tribunaux d'avoir un éventail de sanctions plus large, finalement, où hier, par exemple, il y avait du sursis. Aujourd'hui, on a des assignations,
non,
des machins,
plus,
des trucs.
En plus, le texte de loi sur certaines peines va aller passer directement au... La discussion va se faire directement au niveau l'audience de jugement. Alors qu'avant, vous aviez la possibilité d'avoir un aménagement de la peine. Donc c'est pas de l'alternative, mais c'est de l'aménagement. Et là, on va sauter la partie aménagement, puisqu'on va la passer directement au niveau du jugement. Or, l'aménagement de la peine, c'est vrai qu'on sort du cadre un peu dur de l'audience de jugement pour discuter sur les pièces. Concrètement, vous faites quoi ? Vous avez un projet ? Vous n'avez pas de projet ? C'est un autre juge. C'est pas forcément... Le travail n'est pas forcément... bien fait, parce que ça va dépendre aussi du juge, mais on a en tout cas une autre discussion qui va sortir de la condamnation en tant que telle. Et c'est bien des fois de séparer les deux. Et là, le projet va faire en sorte que certains aménagements vont passer au stade directement du prononcé de la peine et pas de l'aménagement. Je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, on va enlever une discussion possible. Et cette discussion, je sais pas comment vous l'appréciez, mais la discussion de l'aménagement de peine, ça permet aussi d'avoir de changer de contexte et de discuter concrètement de ce qu'on fait et du projet de la personne, non pas de sa personnalité avant l'infraction, mais de ce qu'il peut faire après pour lui permettre déjà de construire son avenir.
Bah, c'est-à-dire que là, dans une société où il y a combien de chômeurs, 6 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage complètement gueudin, avec des gens qui souvent, on le sait très bien, sont des gens pauvres, des gens qui se retrouvent en prison, que ce soit avant, pendant ou après le délit, à vrai dire, ça change pas grand-chose sur les perspectives d'avenir ou de construction d'un projet quand la société, enfin la communauté, les conditions de vie ont fait que on a été mis en marge de ce système. Bon, c'est un peu problématique quand même.
Comme par exemple demander à quelqu'un qui n'a pas le choix de vivre dans un endroit avec d'autres personnes qui sont mises en cause comme lui. On va lui dire, si vous déménagez, sauf qu'on déménage pas du jour au lendemain pour s'éloigner des personnes qui ont été complices du délit. Donc c'est vrai que on impose à des gens des obligations qui sont parfois impossibles à tenir, trouver un travail, déménager, tout ça, ça demande des moyens et souvent des réseaux familiaux ou économiques ou sociaux qu'on n'a pas forcément. Et demander à quelqu'un de sortir de son milieu, c'est déjà problématique. Rien que de demander de couper des ponts sur un réseau d'amitié, c'est compliqué. Mais en plus, quand il n'y en a pas d'autres à côté, c'est encore plus compliqué.
Carrément. C'est pour ça, voilà, c'était le bémol.
Non, mais ce que je veux dire sur l'aménagement des peines, le second bémol, c'est qu'en plus, le travail est mal préparé parce qu'il y a assez peu d'avocats qui le font et que c'est aussi un coût d'avoir accès à l'avocat pour aider à construire le projet. Et ça ne relève pas que de l'avocat, ça relève d'un certain nombre de services sociaux. Et c'est toujours pareil, quand il n'y a pas les moyens pour aider la personne à se réinsérer, ça ne marche pas.
Comment parler du numérique quand même? Il y a un observatoire qui s'appelle la CNIL, donc c'est le Conseil National Informatique et Liberté. Est-ce qu'on sait son positionnement sur tout ça?
Alors moi je l'ai pas le positionnement.
Une question.
Non, je l'ai pas.
Non, en général. Mais la CNIL n'a jamais brillé par ça.
Il y a un positionnement sur l'anonymisation des décisions de justice pour éviter d'être entré dans des bases de données. Donc les personnes qui sont mises en cause dans les décisions de justice, ça doit être anonyme. Mais ça marche pas totalement parce qu'on a déjà ces premiers algorithmes qui fonctionnent. Et quand on, par exemple moi, si je tape mon nom, tout ce qui est entreprise, association ou établissement public, eux, ce ne sera pas anonymisé, c'est une première chose, mais surtout, on va m'attribuer, comme personne que j'ai défendue, tout autant les personnes qui étaient contre moi que celles que j'ai défendues. Donc en fait, les outils sont totalement foireux, faut se le dire, donc je me retrouve à être en défense de personnes qu'en réalité j'attaquais. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est un peu l'état de ces bases de données. Il faut savoir que pour la justice publique, toutes les données sont déjà numérisées, donc c'est pas compliqué ça, y avoir accès. Je trouve que c'est normal d'avoir accès à toutes les données parce que la justice est publique. Donc quand je dis la justice publique, c'est la justice administrative. Justice civile, on n'a pas de base de données. Donc on a les grandes plateformes de sociétés qui vendent du droit, qui appellent un par un les tribunaux, qui appellent un par un les avocats pour essayer de récupérer tous les jugements un par un. Ça vous donne un peu le sérieux du travail qui est fait et ça vous donne un peu le sérieux de la base de données qui va être utilisée derrière. Donc en matière notamment de droit civil, vous n'avez pas de base de données, donc vous avez un truc complètement foireux.
Alors qu'est-ce qu'on peut se dire comme logique que sous-tend cette réforme de la justice ?
On n'en a pas vraiment parlé de la logique, mais quand on prend un peu du recul et qu'on voit comment ont été écrits les textes de loi, au-delà de la matière purement pénale, pour le reste, on a un transfert d'une justice publique et accessible à tous vers un règlement des contentieux privés. Donc on va payer l'accès non plus au juge, mais à une médiation. C'est vraiment, on sent là vraiment la logique classique qui est de dire on met pas de moyens dans la justice parce qu'on réduit les budgets publics Alors, à l'exception de...
De la construction de nouvelles prisons.
Et l'argent, on va laisser les gens accéder à leur propre justice privée sur aujourd'hui des petits litiges, mais ça va continuer comme ça. Pour donner un exemple, on avait parlé il y a déjà 3 ou 4 ans du divorce sans juge. Le divorce sans juge, c'était, on nous dit, voilà, les avocats sont chers, alors que quand les gens sont dans un consentement amiable...
Pourquoi
se prendre la tête ? Au final, les discussions, c'est qu'on n'a plus de juge, mais on passe par l'obligation d'avoir 2 avocats. Parce qu'effectivement, quand il y a un divorce à l'amiable, on ne peut pas avoir qu'un avocat d'un côté, donc on en met des deux côtés. Pour remplacer le juge, qui était l'élément de neutralité, on l'a remplacé par un élément de contradiction, et donc on passe de un avocat payé à 2 avocats payés, mais plus de juge. Et le summum de cette réforme, c'est que le mineur doit signer un papier, un serfage, parce que vous voyez ce que c'est un serfage, c'est un papier administratif, pour dire qu'il a bien conscience qu'il peut avoir accès à un juge s'il le demande. Donc on lui laisse la responsabilité d'avoir accès à un juge contre ses parents qui vont dire on va pas aller voir le juge parce que ça coûte trop cher. Mmh. Vous voyez un peu la logique dans laquelle on est. Donc aujourd'hui, c'est l'enfant mineur qui va dire si on va devant le juge ou pas. Et avec la pression des parents, ils n'iront pas devant le juge et on payera 2 avocats et non plus un seul.
Donc il y a une logique...
C'est la même logique. C'est-à-dire
la logique de l'argent.
On renvoie vers des prestataires privés et on sort ça du juge payé par l'État et donc payé par la collectivité.
Ouais, puis, pour moi, il y a un autre truc, c'est que, aussi là, dans tout ce qui a été dit dans l'émission, il y a un vrai truc de déposséder les gens des quelques espaces qu'il y avait dans la justice,
de débat
ou même d'avoir un peu de temps pour essayer de se réapproprier, réfléchir. On parlait des assises tout à l'heure, c'est tout à fait ça, quoi. Derrière, il y avait des juges professionnels qui faisaient qu'il y avait quand même globalement des sentences, que le truc, il est grave critiquable, mais c'est aussi pouvoir prendre le temps de faire le procès de la justice à l'occasion, de retourner contre la justice, de se réapproprier ses armes. Et moi, j'ai l'impression que qu'il y a ça là-dedans, mais qu'il y a ça en tous les derniers projets de loi, de déshumaniser tout ça, de faire en sorte de généraliser l'abattage des comparutions immédiates à peu près à partout, en tout cas la logique quoi, qu'il y a derrière. Et pour moi, ça va avec aussi toutes ces comparutions-là qu'il y a en visioconférence, par exemple. Et ça aussi, c'est des trucs totalement dingues.
C'est prévu, la visioconférence, ouais. Notamment dans détention provisoire, lorsque vous discutez sur des demandes pendant la détention provisoire, comme on n'a plus les moyens, on ne veut plus mettre les moyens pour faire déplacer les détenus par des escortes, on passe en visioconférence. Et je peux vous dire que nous, on ne sait pas comment s'y prendre, parce que souvent, ça ne marche pas. La personne, elle est... l'avocat, on ne sait pas où il se place. Est-ce qu'il se place au tribunal ou avec la personne comment est-ce qu'il parle avec la personne, quelle est la confidentialité, comment est-ce que... Donc soit il est avec la personne pour lui faire passer des messages, y compris en le regardant, y compris... ça, c'est important, le contact. Soit il est avec les... Et donc il n'est pas avec les juges. Et être à côté des juges, c'est aussi faire passer des messages. Donc là, on coupe complètement la personne de ses juges, voire de son conseil. Je vous donne un autre exemple, hein, c'est l'installation dans tous les tribunaux aujourd'hui de ce qu'on appelle des cages de verre, parce qu'on ne veut plus surveiller les personnes par du personnel pénitentiaire, donc on les met dans des cages de verre. Les personnes ont chaud, elles peuvent pas communiquer, elles sont obligées de se pencher ou de se mettre sur la pointe des pieds pour avoir accès au micro, et puis elles sont surtout, il y a une apparence de culpabilité, alors même que la présomption d'innocence veut que la personne ne soit pas présentée comme coupable devant son juge.
C'est exactement ce que tu disais, Alex, c'est-à-dire vraiment la déshumanisation des personnes. Là, on a affaire à une image. C'est très simple de dire oh non à une image ou à des gens qui se retrouvent dans une boîte.
Mais quand vous mettez des personnes, vous mettez du débat. Quand vous mettez du débat, vous mettez de la contestation. Et quand vous mettez de la contestation, vous fragilisez celui qui a l'autorité. Et c'est assez simple.
Hein. Ouais, et puis on enlève juste tout espace de solidarité possible, quoi, y compris avec les proches qui viennent assister à l'audience. Pour les gens qui sont en visioconférence, c'est la même chose. Enfin, c'est un vrai truc de bloquer tout.
D'isolement.
Et de faire en sorte, déjà qu'on savait que la justice, elle nous appartenait pas et que souvent les gens, ils se sentent condamnés sans avoir eu l'impression de pouvoir y mettre quoi que ce soit. Mais là, c'est le truc total de tu laisses ton avocat faire ses bails avec la justice, tu restes de ton côté et t'attends. Et le truc du box, c'est aussi ça, quoi. C'est vraiment, t'es coupé du délire. Ton avocat, lui, il participe et toi, t'es encore plus en retrait et tu réponds juste à la question finale de est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quoi. Voilà.
Tout à fait. Et puis, peut-être vite fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure des projets de loi, etc., on se rend compte qu'il y a de plus en plus... même si nous, on n'est pas très... on n'a pas beaucoup de... Les juges appartiennent quand même à une classe sociale. Ils défendent leurs intérêts, etc. Donc, ils fabriquent cette justice de classe. Mais ça n'empêche qu'on voit plus ça va, plus ils sont dépossédés quand même de leur pouvoir. Ils ont de moins moins en moins de pouvoir au détriment du parquet ou de l'avocat général, etc., de l'État, quoi.
Ah bah, concrètement, même c'est physiquement que ça se passe. Dans les nouveaux tribunaux en construction, ils vont avoir des open space avec des ordinateurs branchés, donc plus de bureaux, qui travailleront de chez eux. Ils viendront se connecter sur un open... Non, mais c'est prévu. C'est le projet du futur tribunal de Lille, c'est prévu l'open space. Et pour accéder aux étages, aujourd'hui au tribunal de Paris, il faut avoir un badge. Ce qui veut dire qu'y compris, on va dire, bon, l'avocat qui vient nous emmerder pour poser une question. Donc toute la discussion qu'on a avant le procès, c'est important parce qu'on va quand même discuter avec les juges. C'est pas interdit pour les avocats de le faire. Même ça est coupé. Donc on coupe le juge, y compris de l'accès aux parties, ou l'inverse, les parties d'accès au juge. Donc open space, box vitrée et carte d'accès aux tribunaux.
Bah c'est ça, c'est la justice, hein, c'est voilà, la justice expéditive.
Est-ce que vous avez prévu un petit peu de vous mobiliser pour les,
bah, je veux dire,
voilà, pour les continuer.
On n'arrête pas, mais là on arrive au bout du procédé. Je vous avoue que là aujourd'hui, comme c'est les deux derniers jours de discussion, la préparation, elle est pour alimenter les parlementaires sur la saisine du Conseil constitutionnel. Donc là, on est en train de faire un travail d'argumenter pour aider les parlementaires qui contesteront le projet de loi devant le Conseil constitutionnel. Après, c'est un combat sans fin.
Non, mais il va falloir absolument qu'on se réapproprie tous ces espaces-là, quoi, que ce soit celle du droit, parce que la loi, elle défend qui, elle défend quoi, elle est là pour qui, pourquoi, les tribunaux, comment ça se passe, qui juge, pourquoi, dans quel but commun, pour défendre des privilèges, et la prison a-t-elle un sens, toutes ces questions-là devraient être absolument remises sur le tapis, et peut-être que ce mouvement en cours devrait se réapproprier toutes ces questions-là et repartir sur une critique de tous ces outils qui, on voit là, enferme encore et toujours plus, et nous dépossède de tout, quoi. Enfin bon, donc voilà. Bah ouais, bon ben. Bah. Bon, le mot de la fin, on a dit déjà beaucoup de choses.
Ah bah le mot de la fin, non, mais pour reprendre effectivement la déshumanisation, c'est la fin du débat judiciaire et du débat juridique. On peut pas reprocher aux gens de ne pas connaître le droit si on leur donne pas les moyens de se l'approprier. C'est forcément complexe, mais plus on fait de loi, plus c'est complexe. Il y a forcément des questions qui sont plus subtiles, mais nous, on défend quand même une position de dire que pour se défendre, l'arme du droit est importante et que l'arme du droit doit être accessible. Et donc, donc là, les projets qui sont en cours renvoient de plus en plus à des professionnels, de moins en moins aux personnes. Et on ne peut pas comprendre le droit qui s'applique à nous si on n'y a pas accès. Donc, ça continue. En réalité, ça continue avec toujours plus d'obstacles contradictoires et toujours plus d'obstacles au débat, y compris entre les parties, pour essayer de régler les désaccords.
Alex, tu veux finir cette émission ?
Non, juste beaucoup de solidarité. Moi, je pense pour tous ceux et toutes celles là qui se sont fait arrêter ces derniers temps, qui sont en prison, en centre de rétention, dans d'autres lieux d'enfermement. Beaucoup de force et de courage, et on espère que ça va lutter
carrément
aussi à l'intérieur.
Et j'en profite pour dire que si vous nous écoutez, d'abord, on vous passe un grand salut, parce qu'on sait combien ça aurait pu être nous aussi. N'hésitez pas à témoigner, je veux dire, à écrire ce que vous êtes en train de vivre, comment vous percevez ces différents outils de répression et ce que vous vivez à l'intérieur. C'est hyper important. On a très très peu de témoignages de l'intérieur. Des gilets jaunes, mais peut-être même d'une manière plus générale, qui est en prison, c'est quoi les conditions de détention, les solidarités qui se créent, les divisions que l'administration pénitentiaire met en œuvre pour vous détruire. Essayez de nous raconter tout ça, on en a besoin pour pouvoir à la fois comprendre et puis être solidaire des luttes et en tous les cas de cette volonté de détruire de tous les outils d'oppression, quoi. Et la prison en fait aussi partie, le droit aussi et les tribunaux aussi. Parce que le droit, il y a fort à dire aussi. Même s'il peut être une arme, il est aussi une arme contre nous. Voilà comment on peut terminer aujourd'hui cette émission. Merci,
merci
Florian, merci Alex.
simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat, et pas le capital! 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 Protéger le climat, et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse, à Local, à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.